Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jocelyn Moussa Oponde.
Condamnation de 12 militants de la Lucha par le tribunal militaire de garnison de Beni. Ils étaient poursuivis pour avoir manifesté en novembre de l'année dernière contre la 12e prorogation de l'état de siège. À Boutembo, plaidoyer de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance, pour la réduction des frais de participation à l'examen d'État et la prise en charge totale des orphelins des massacres de Beni. Le moine Jean-Baptiste Désiré Katourébé est notre invité. Il est le chef de la chefferie de Bouicha, dont un des groupements, celui de Djomba, est le théâtre des affrontements opposants depuis lundi les FARDC aux rebelles du M23. Bonjour à tous. Les tribunaux militaires de garnison de Beni, siégeant en matière répressive au premier degré, a condamné hier vendredi à 12 mois de servitude pénale principale 12 militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha. Ils étaient poursuivis pour avoir manifesté en novembre 2021 contre la 12e prorogation de l'état de siège. Martial Papi Moukeba pour les détails.
Dans ce jugement rendu, le tribunal dit avoir établi en fait comme en droit l'infraction des désobéissances aux lois de la République contre les 12 militants de la Lucha. Ainsi, sans admission des circonstances atténuantes, tous les prévenus ont été condamnés à 12 mois de servitude pénale principale et au paiement chacun de 250 000 francs congolais à titre des frais d'estance. Le tribunal a également confirmé la détention de ces 12 militants de la Lucha qui ont déjà purgé 4 mois de prison. Rappelons que ces militants avaient été arrêtés le 11 novembre 2021 dans l'enceinte de la mairie de Beni alors qu'ils manifestaient contre la 12e prorogation de l'état de siège sans évaluation préalable. Notons qu'au cours de l'audience de ce vendredi, les 12 militants de la Lucha n'avaient pas bénéficié de l'assistance de leurs avocats. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Évasion jeudi de 26 détenus au cachot du parquet du tribunal de paix d'Idiofa dans la province du Kwilu. Des enquêtes sont lancées pour retrouver les évadés ainsi que deux policiers de garde présumés complices dans cette affaire. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Kwilu, Jean-Claude Bouanganga, qui le dit, appelle la population au calme parce que selon lui, des dispositions sont prises pour sécuriser cette population qui s'agite, redoutant la montée de la criminalité à la suite de cette évasion. Il a été joint par Irène Boma.
C'est dans l'Amigo du parquet près de Tripé. Alors, vous connaissez vous-même les conditions carcérales chez nous. Donc, il y a eu des évasions, certes.
Sur le 41 détenus, il y a eu 26 qui se sont évadés. Fort malheureusement, au même moment, il y a eu deux disparitions de policiers qui étaient affectés à cet Amigo. Ils sont allés avec une arme, heureusement, a été retrouvée. Pour l'instant, les services de sécurité sont déjà en état d'alerte. Nous sommes en train de rechercher les deux policiers et les détenus.
Nous avons la liste complète des gens qui se sont évadés et les deux policiers qui ont, on soupçonne qu'ils ont facilité cette évasion, qu'ils avaient été complices. Mais les enquêtes sont en cours et nous sommes en train d'enquêter et je suis sûr qu'on va le retrouver. Il faut que la population reste calme. Les services de sécurité sont en alerte pour retrouver ces criminels. On a pris toutes les dispositions pour sécuriser la population. À l'heure qu'il est, ils ne sauront même pas sortir d'Idiofa parce que c'est vrai que nous avons levé des barrières, mais il y a des points de contrôle qui sont placés par là pour essayer de sécuriser la population.
641 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été enregistrées en RDC au mois de février 2022. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui rend public ces chiffres, indique que cette augmentation de près de 12% par rapport au mois de janvier 2022 est attribuable en grande partie aux combattants des groupes armés, notamment des ADF et la CODECO. D'autres détails avec vous, Pierrot et Lamège.
Dans cette note rendue publique à la fin de ce mois de mars, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme indique que plus de 29% des violations sont le fait des ADF dans les territoires de Beni, dans la province du Nord Kivu et dans les territoires de Mambasa et d'Iromou, dans la province de l'Ituri, ainsi que des combattants de la CODECO dans la province de l'Ituri. Le Bureau conjoint note cependant une légère baisse, soit 6% des violations attribuables au FARDC dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Environ 86% des violations documentées arrêtées en février ont été commises dans les provinces affectées par les conflits et ces violations ont entraîné la mort d'au moins 306 personnes civiles, parmi lesquelles 224 hommes, 43 femmes et 39 enfants. Le bureau conjoint note également que 87 violations des droits de l'homme ont été commises dans les zones non affectées par des conflits. Dans sa note, le bureau conjoint indique également que durant le mois de février 2022, il a continué d'apporter son soutien aux autorités congolaises dans le cadre de la lutte contre l'impunité des violations et des atteintes aux droits de l'homme et au moins un militaire des FARDC a été condamné par des juridictions congolaises pour des violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire congolais.
Le commissaire provincial de la police dans le Maïndombé, le général Christian Paipai, a effectué mercredi et jeudi dernier une mission d'itinérance dans le territoire de Kwamout, plus précisément au village Kambankou, via la ville de Bandundu au Kwilu. Objectif, rétablir la paix et l'ordre public qui est troublé depuis le mois de juin de l'année dernière dans ce coin à cause d'un vieux conflit coutumier opposant deux clans. Selon lui, cette mission rentre dans les cadres de la police de proximité. Le général Christian Paipai l'a dit hier vendredi à Irène Boma lors de son retour. On l'écoute.
J'ai effectué une mission dans le territoire de Kwamout, plus précisément au camp Bakou, où il y a quelques mois, il y a eu des bagarres qui avaient causé mort d'homme. Il y avait incendie de plusieurs maisons. Et ce qui était là-bas, c'était un conflit coutumier. J'étais obligé de venir rétablir l'ordre public, essayer de réconcilier les familles qui se disputent ce pouvoir, et essayer de donner des pistes de solutions pour que la population puisse retrouver la paix et vivre dans la quiétude. C'est une mission qui m'a été confiée par le gouverneur de province intérimaire. Le seul message était de faire régner la paix dans ces contrées. Parce qu'il y a des gens qui passent la nuit sur les toits, des mamans, des enfants, des vieillards. Il faut voir la misère que subit cette population à cause de ces conflits coutumiers qui ne datent pas d'aujourd'hui. Dans mon rapport à l'autorité provinciale, j'ai des suggestions à faire pour que, effectivement, on puisse mettre fin à ça. C'est dans le cadre de la police de proximité.
Le numéro 1 de la police dans le Maïndombé demande à tous les notables du territoire de Kwamout de tout faire pour que cette paix rétablie soit effective et durable. Et quant aux tireurs des ficelles qui, selon le général Paipai, sont bien identifiés, il a indiqué que dès son retour auprès du gouverneur de la province qu'il avait mandaté, des mesures idoines seront prises à leur endroit. À Boutembo, je l'ai dit dans les titres, la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance plaide pour la réduction des frais de participation à l'examen d'État de l'année en cours. Elle demande également la prise en charge totale de ces frais par le gouvernement congolais en faveur des orphelins des massacres de Beni. Dans un point de presse hier vendredi, cette structure a plaidé pour l'implication des autorités tant nationales, provinciales que locales. Dans ce dossier, Florida Kahambo pour d'autres détails.
L'arrêté du gouverneur a fixé en février dernier les frais de participation à l'exétat 2022 à 121 000 francs congolais contre 90 000 francs payés l'année passée. La DIFEGU plaide pour la baisse ou la réduction de moitié de ces montants au regard des conditions difficiles des ménages dans la province du Nord Kivu. Cette structure des femmes demande au gouvernement de prendre en charge la totalité de ses frais en faveur des orphelins des massacres de Beni. Rose Tombeyane, coordonnatrice de la DIFEGU, indique que l'État doit assumer ses responsabilités. La DIFEGU dit avoir découvert d'autres frais, 10 frais techniques et des stages dans une vingtaine d'écoles de Beniville et territoires. Ce qui fait monter les frais autour des 100 dollars, déplore la DIFEGU. Elle invite les autorités compétentes à mener une enquête pour clarifier les choses. Les prophètes de l'EPST Nord Kivu 2, Salomon Chalumau, demande à la DIFEGU de lui partager des informations à ce sujet afin de sanctionner les chefs d'établissement qui seraient en train de percevoir ces frais qu'il qualifie de prohibés. Quant à la prise en charge des élèves déplacés aux exétats, les prophètes disent attendre les listes de leur nombre exact pour des dispositions nécessaires. Boutembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Cinquième livraison de notre série de reportages sur le secteur de l'ESU de l'Université de Kalemi. Notre reporter nous emmène à l'Institut supérieur pédagogique de Pelende dans le Kwango, totalement abandonné par l'État congolais. Ce petit institut d'enseignement supérieur peine à fonctionner avec multiples problèmes du point de vue infrastructurel, mais aussi de son fonctionnement et du personnel. Si la majorité de son personnel n'est pas mécanisé, localisée. Un des bâtiments de l'ISPP Lindé a perdu sa toiture au cours des dernières pluies diluviennes, déplore son directeur général, le professeur Giovanni Kwetukadila. Michel Kifindambongoy, reportage.
Depuis sa création par le ministre honoraire de l'éducation nationale, le professeur Koutoumissa Kiota, dans les années 97-98, l'ISPP Lindé est simplement abandonné par le gouvernement. Alors qu'il existe bel et bien une ligne budgétaire dans différents budgets de la République votés chaque année par le Parlement, l'ISPP Lindé n'a jamais bénéficié des frais de fonctionnement du gouvernement, s'indigne son directeur général. Le professeur Giovanni Kwetukadila plaide pour que les fonds alloués à cet institut supérieur soient décaissés cette année, comme c'est le cas avec les grandes universités du pays. Ceci permettra à l'ISPP Lindé d'amorcer aussi les travaux de construction des auditoires et bureaux pour les enseignants. Le DG de l'ISPP Lindé invite par ailleurs le ministre de l'ESU à procéder à la mise en place et au remaniement du comité de gestion de cet institut pour non seulement combler les postes vacants, mais aussi pour y affecter des personnes capables de faire avancer cet institut supérieur. Inquiet du non-paiement salarial de la majorité de son personnel, le professeur Giovanni Kwetukadila insiste sur la nécessité pour le gouvernement de mécaniser les assistants et chefs des travaux de l'ISPP Lindé afin qu'ils soient aussi valablement payés par le trésor public.
Le développement des initiatives privées, la promotion de l'entrepreneuriat sont entre autres là les stratégies pour transformer les ressources naturelles de la RDC en richesses réelles qui profitent à la communauté nationale. Propos de l'administrateur délégué adjoint de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Kimona Bonongue, s'exprimait ainsi hier vendredi à Kinshasa. C'était à l'occasion de l'ouverture du forum sur l'entrepreneuriat congolais à l'ère des nouveaux enjeux. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
Il est inutile pour moi de vous ressasser avec l'inventaire des ressources humaines en sous-sol, en sol, dans le gorge de notre pays. On en parle tellement et malheureusement, ce n'est pas ça qui donne la richesse. La question essentielle à laquelle il faut répondre, c'est comment transformer cet énorme potentiel en ressources et en richesse réelle profitable à l'ensemble de la communauté nationale. Et l'une des réponses à cette question importante est le développement de l'initiative privée, la promotion de l'entrepreneuriat national et l'investissement et de l'investissement dans les secteurs productifs à valeur ajoutée. Nous estimons que l'entrepreneuriat est un élément conducteur de la croissance et de la diversification économique.
Restons à Kinshasa où les travaux de construction du marché situé au camp PM dans la commune de Mangafula arrivent à leur terme. Ce marché provisoire construit dans un camp militaire est destiné à accueillir les commerçants du marché Matadikibala qui a été fermé depuis 2 mois. La population marchande ainsi que celles vivant dans ce coin attendent impatiemment l'ouverture du dit marché. Reportage de Jean-Francis Mouya.
Depuis maintenant 2 mois, les commerçants délogés du marché Matadikibala situé à Mangafula sont encore en attente d'être installés au marché provisoire érigé au niveau du camp PM. Bien qu'il n'ait pas encore officiellement ouvert aux activités, l'on peut constater à première vue qu'il pourrait déjà accueillir les commerçants pour leurs activités. Ce marché qui s'étend sur une superficie de plus ou moins 300 mètres contient 2 pavillons dans lesquels on retrouve près de 200 étalages, ainsi qu'un nombre important de locaux destinés à abriter des maisons commerciales. La population marchande ainsi que celle qui vit dans ce secteur disent être impatiente d'assister à son ouverture. Mais elles expriment néanmoins un mécontentement par rapport à la lenteur avec laquelle évoluent les travaux de construction du dit marché. Les vendeurs et commerçants rappellent que c'est depuis le mois de février qu'ils ont du mal à faire tourner leurs différentes activités, car depuis qu'ils ont été délogés du marché Matadikibala, ils n'ont pas un autre endroit où évoluer. Rappelons que la décision de déloger le marché Matadikibala est intervenue à la suite du décès par électrocution de 25 personnes sous une pluie battante.
Actualité internationale.
Les salariés d'un entrepôt d'Amazon à New York ont voté en nette majorité en faveur de la création d'un syndicat. Une première aux États-Unis pour le géant du commerce en ligne depuis sa création il y a près de 30 ans. Selon un décompte retransmis en ligne, 2654 employés ont coché oui pour être représentés par l'organisation Amazon Labor Union, créée il y a près d'un an contre 2131 et ont voté non. Le président du Sri Lanka a proclamé hier vendredi l'état d'urgence, donnant des larges pouvoirs aux forces de sécurité après 24 heures de manifestations parfois violentes contre son incapacité à résoudre la grave crise économique. Il a expliqué que la sécurité publique imposait d'appliquer des lois dures, donnant aux forces de sécurité de pouvoirs étendus pour arrêter et emprisonner des suspects.
L'invité.
Le Mwami Jean-Baptiste Ndézé Rekatourébé est notre invité. Le chef de la chefferie de Bouicha en territoire de Rutshuru revient sur la situation sécuritaire et humanitaire dans son entité. Bouicha, dont un des groupements, celui de Djomba, est le théâtre des affrontements qui opposent depuis lundi les FARDC aux rebelles du M23. Comment évolue la situation dans la zone au quatrième jour de cette instabilité sécuritaire? Réponse de Jean-Baptiste Ndézé Rekatourébé dans cet entretien téléphonique avec Bernard Danyangi.
Mwami Ndézé, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, depuis le début de la semaine, pratiquement, Bouicha a subi des attaques des rebelles du M23, surtout dans le groupement de Djomba. Comment d'abord vous avez géré la situation?
Géré, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que, comme vous le savez, nous sommes en situation d'état de siège. La prérogative quant à l'aspect sécuritaire est essentiellement confiée aux responsables militaires et autres forces de sécurité, donc police, armée. Et donc nous, on a reçu l'information par nos chefs de village, chefs de groupement, et puis j'ai communiqué avec l'autorité provinciale et territoriale, et eux, ils ont pris les dispositions nécessaires.
Et présentement, selon le rapport que vous avez, comment évolue la situation dans la zone?
Comme on a tout suivi, ça s'est passé donc la nuit du dimanche à lundi. Puis le mardi, ça s'est un peu compliqué. Et donc, après avoir pris différents avis, notamment de la MONUSCO, des responsables sécuritaires de l'ICCN, on a décidé de redescendre sur Goma pour plus de sécurité. Et donc, en arrivant à Goma, on a communiqué avec les autorités tant territoriales que provinciales, en leur montrant que donc l'aspect militairement parlant, on va dire, ce sont des forces armées qui sont en train de nous agresser. On ne peut pas faire grand chose. Donc on préfère se mettre en retrait et les laisser travailler en toute quiétude.
Oui, à Goma, vous êtes en train de contacter quand même les autorités provinciales et d'autres partenaires. Vous pensez que en ce moment, il y a certains besoins, par exemple, des populations qui sont à déplacement?
Oui, disons que hier, nous avons été reçus par l'autorité provinciale, le gouverneur militaire de province, avec le vice-gouverneur et ses conseillers. On a échangé sur les éléments que nous avions au moment des faits et comment ça évolue aussi. On est en contact avec notre population au niveau de la base qui nous ont dit que la situation était sous contrôle vu que l'armée ougandaise était rentrée et qu'avec l'appui de l'armée ougandaise et des forces loyalistes, on devait maintenir cette force au niveau de Djomba pour les défaire totalement.
Nous savons que plusieurs habitants, surtout de la zone de Djomba, sont actuellement en déplacement. Est-ce que il y a quelques peut-être démarches, puisque bon, nous avons même appris qu'il y en a ceux qui commencent même à rentrer comme ça, mais ceux qui sont encore en déplacement, qu'est-ce qui peut être fait pour eux dans le temps qui court?
Le groupement de Djomba a été quasiment divisé en deux. Il y a une partie qui est remontée vers Bunagana et traversée vers l'Ouganda. Une autre partie est redescendue vers Rutshuru. Beaucoup sont en tout cas à Rutshuru, Kiwanja, et d'autres sont repartis vers Goma. Et donc, nous essayons d'établir, si vous voulez, des statistiques du nombre de personnes que nous avons, en tout cas au niveau de Rutshuru Centre. On a pu établir au niveau de l'EPE Rugabo un certain nombre de familles avec le nombre exact. J'attends encore l'actualisation à cette heure-ci de la situation aujourd'hui. C'est vrai que certaines veulent retourner dans leur milieu, mais tout dépend un peu de la situation sécuritaire pour leur permettre de repartir vers leur lieu respectif. Mais les dispositions sont prises en place. Donc après le gouverneur de région hier, nous avons rencontré aussi les responsables de la riposte humanitaire, hein, donc au sein de Ocha. Et donc on a échangé, on attend un peu les chiffres exacts pour savoir quelle est la réponse qu'on peut apporter à cette population meurtrie.
C'est pas la première fois en tout cas, c'est depuis novembre qu'il y a ces attaques-là successives attribuées aux rebelles du M23 dans la zone. Et la population qui est là, c'est une population qui est paysanne et qui ne vit que de l'agriculture. Actuellement, la production agricole va en pâtir. Est-ce que il y aurait quelques dispositions, par exemple, pour essayer un peu d'aider cette population dans ces côtés-là?
Oui, c'est-à-dire que, comme toujours, ces attaques interviennent toujours au moment où les récoltes sont dans les greniers, dans les dépôts des gens. Et donc, oui, bien sûr, nous sollicitons l'aide de toutes ces organisations humanitaires, notamment le Programme alimentaire mondial et d'autres structures, pour pouvoir venir en aide aux déplacés, notamment aux enfants les plus vulnérables de 0 à 10 ans. On a un taux de mortalité très élevé dans cette tranche. On n'est pas exigeant, mais le peu qui peut nous arriver, nous le sollicitons.
Merci beaucoup, moi, Mindezé.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Noïla Luzitu Kabambi sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué, Jean-Claude Tiala, la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.